ça pourrait être encore pire. Avec Murphy.
Ce matin, nous recevons Quito Brown-Ortega. Bonjour Quito.
Bonjour.
Alors Quito, tu te présentes aux législatives. Tu avais un petit peu, pas un petit peu carrément, tu avais raccroché les gants après ton investissement dans la politique il y a quelques années. Qu'est-ce qui te fait revenir à fond dans la politique maintenant? Quel était le déclencheur?
Effectivement, j'ai arrêté en 91 lorsque je n'ai pas été réélu à l'Assemblée territoriale. Et depuis 3-4 ans, je regardais que la situation du territoire s'aggravait de plus en plus. Et à un moment donné, j'ai décidé, il faut faire quelque chose. Et c'est un peu par devoir, en fait, que je m'engage depuis 4 ans dans ce projet. Et pour nous, les législatives, dans 2 mois, ça va être la première fois que nous aurons l'occasion de présenter une nouvelle génération de dirigeants politiques que nous espérons continuera plus tard.
Alors le comité QBO a muté, c'est devenu un parti?
Alors nous sommes en phase de transition, effectivement il y a toujours une association politique, le mouvement oui. S'est restructuré en mouvement politique et a pris un nouveau nom, Tehiti Tau Api, une nouvelle ère. Et donc à partir de là, nous ça sera un petit peu notre structure de combat entre guillemets sur le plan politique, et on espère évidemment évoluer vers un parti définitif dans les mois qui viennent.
Alors il y a beaucoup de partis qui se sont créés depuis quelques mois. C'est une bonne chose parce que ça montre que la population s'investit, que des gens s'investissent dans la politique, c'est bien. Mais on peut aussi se poser la question pourquoi il y a autant de partis politiques qui se créent et pourquoi ils le font. Toi, quelle est la raison? Pourquoi t'as pas voulu rejoindre des partis existants?
Alors il y a 4 ans, effectivement, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait parce que ça fait 4 ans que j'ai pris mon engagement politique et dans ce qui existait à l'époque, je ne trouvais pas de structure qui m'était agréable pour différentes raisons.
Les structures ou les personnes?
Les structures et les personnes. Oui. En fait, parce que l'idée que nous avons lancée, c'est de structurer quelque chose totalement différent par rapport au traditionnel parti politique qui avait comme base essentiellement l'assistanat et le clientélisme. Donc nous voulons sortir de ce schéma. Mais je pense qu'au fond, c'est une bonne chose que beaucoup se manifestent parce qu'après tout, il faut donner le choix à l'électeur. Donc moi, je dis le soleil brille pour tout le monde. Chacun doit faire valoir ses idées et si possible, convaincre une partie de la population de rejoindre leurs idées. Nous le faisons depuis 4 ans. On est structuré en association politique depuis 2 ans. Le mouvement est né depuis le début de l'année pour engager les échéances électorales. Donc nous voilà prêts à affronter le scrutin universel.
Alors ces législatives, c'est aussi pour accéder au poste de député.
Tout à fait.
Peu de personnes parlent du rôle du député et aussi les avantages. Il faut aussi en parler. En tant que député, il y a d'énormes avantages. Est-ce que toi tu pourrais en parler un petit peu par rapport aux frais de déplacement, par rapport au salaire qui est proposé quand on est polynésien, c'est énorme.
Oui, c'est énorme, mais c'est moins que que la rémunération des représentants à l'Assemblée.
Oui.
Le député national est moins rémunéré que le représentant local. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons d'expliquer à nos électeurs le rôle exact du député. Et je crois qu'on a une image un peu fausse du vrai rôle d'un député par l'exemple qui a été donné depuis déjà quelques décennies par nos anciens députés. Alors, je ne veux accuser parce qu'enfin, ils ne sont pas très nombreux. Les parlementaires en général, les députés en particulier, ils savent qui ils sont. Donc, nous avons, nous, à revaloriser le mandat de député et surtout que ce député fasse vraiment son rôle qui est le représentant de la nation, entre guillemets, qui légifère, mais qui a aussi le rôle de contrôler l'action du gouvernement central. Et sur le cas de la problématique de la Polynésie française, il doit être en adéquation pour essayer de faire valoir d'abord que auprès de la représentation nationale, nous sommes des gens quand même responsables. Les images qu'on a de la France, de quelques individus, est une image négative. Donc, il faut qu'on redore le blason de la Polynésie. Donc, il y a tout un travail de pédagogique à faire, et le député a un rôle très important à jouer. C'est pour ça que nous disons que nous présentons d'abord 3 candidats dans chacune des circonscriptions, parce que pour nous, le député est un poste très important. On n'est pas là pour se compter pour les territoriales comme certains. Ceux qui disent ça, à mon sens, c'est un peu une escroquerie morale vis-à-vis de leurs électeurs, alors qu'il faudrait aller pour être député et remplir ce rôle de député. Donc, c'est vraiment capital pour un parti politique, un mouvement politique, d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
D'accord. Et quelles idées tu voudrais défendre en priorité en tant que député?
le plus grand challenge serait de recontacter, de avoir ces contacts avec l'ensemble de la représentation nationale pour leur expliquer que la Polynésie française, c'est pas les quelques éclats qu'on voit dans la presse, c'est autre chose. Il y a une population, il y a des gens qui sont responsables, qui essayent de vivre, qui essayent de développer leur pays, de leur fainéant, et que aujourd'hui nos principales revendications, pas revendications, mais nos principales soucis ne sont pas traduits vis-à-vis de la représentation nationale. Donc il faut qu'on arrive à redorer le blason à la Polynésie, reprendre ce contact, rétablir des pactes, des liens de confiance avec la représentation nationale et avec le gouvernement central, et travailler des dossiers de fond, donc sur les différentes...
Quoi, par exemple?
Alors, avant-hier soir, nous étions en réunion, on reparle toujours des employés communaux.
Oui.
C'est une ordonnance qui est sortie en 2005. Il y a eu deux lois modificatives en 2007 et en 2011, et on n'a toujours pas réglé les problèmes en Polynésie, apparemment. Donc, les députés auraient pu faire un meilleur travail. Les parlementaires, même au sens large, auraient pu faire un meilleur travail d'information à la fois des structures locales et de la représentation nationale.
Mais pour faire quoi exactement? Pour réduire le nombre d'employés communaux?
Alors, pour les mesures de transition.
D'accord. Hein,
parce qu'aujourd'hui, il est vrai que la charge salariale des communes est énorme.
Oui.
Il y a eu des embauches excessives, au-delà des vrais besoins des communes, mais ces gens-là ont été mis aussi dans des situations où ils ne peuvent pas du jour au lendemain tout perdre.
Mmh.
Donc il faut trouver des mesures d'accompagnement. Et les maires qui savent que ce problème existe depuis 2005 n'ont pas été tout à fait à la hauteur de la prise en compte de ces mesures transitoires pour accompagner la réforme administrative.
Ils ont laissé courir.
Ben, on a laissé courir pour différentes raisons. Hein.
Alors justement, tu parlais des candidats pour les trois différentes circonscriptions.
Mm-hmm.
Tu as des candidats qui sont assez jeunes quand même. C'est un souhait. Tu les as pris parce qu'ils étaient jeunes. C'est parce que ça fait bien. On met beaucoup en avant ces temps-ci l'aspect jeune des candidats.
Non, je les ai pris. Enfin, nous avons discuté surtout parce qu'ils ont des compétences.
Oui.
Hein, je pense qu'aujourd'hui, l'âge est un critère secondaire, mais on a aussi dit dès le début, quand j'ai lancé mon projet il y a 3-4 ans, que j'allais essayer de faire monter des nouveaux, une génération nouvelle de dirigeants politiques qui ont des compétences, qui sont intègres, qui travaillent, qui n'ont pas besoin de la politique pour vivre. Ils ont tous un métier, une profession, une activité. Et donc, c'est un peu le challenge que j'ai voulu porter depuis 3-4 ans, et je pense qu'on y est arrivé avec nos candidats aux législatives.
Alors, c'est peut-être un atout, hein, de ce renouveau, mais c'est aussi peut-être un désavantage, puisque, en fait, en politique, en tout cas sur la Polynésie, c'est dur de se faire accepter alors qu'on n'est pas connu et qu'on n'a pas, justement, de passé politique.
Oui, mais on va être un peu les pionniers dans le domaine. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on m'a dit aussi, mais les jeunes n'ont pas d'expérience. Au contraire, ces jeunes ont plus de compétences que n'importe qui siège aujourd'hui à l'Assemblée.
Pourquoi?
Ben, ils ont des backgrounds, ils ont fait des études supérieures, ils ont des compétences financières, des compétences économiques, des compétences juridiques. Et lorsque on renouvelle cette classe, il faut bien que les gens arrivent à un moment donné à se lancer se jeter à l'eau, entre guillemets. Alors il y a deux solutions, soit on rentre dans les structures traditionnelles avec tous les inconvénients des mauvaises habitudes,
oui.
Soit on vient en disant ben on est nouveau. Certes, on n'a peut-être pas beaucoup d'expérience politique, mais je crois qu'aujourd'hui l'urgence c'est d'avoir, enfin le plus important c'est d'avoir les compétences et la capacité de mettre en œuvre ces compétences.
Alors tu soutiens aussi Nicolas Sarkozy, Kito.
Oui.
Qu'est-ce qui représente pour toi parce qu'il y a une certaine lassitude de ce président, en tout cas en métropole, et c'est vrai que c'est assez dans le tempérament des Français. Ils aiment bien passer à autre chose quand ça se passe mal.
Alors,
comment tu pourrais convaincre les gens de garder ce président?
Alors, c'est un débat que nous avons eu depuis déjà plusieurs mois au sein de notre structure, et nous avons un peu regardé les uns et les autres, hein, l'ensemble des candidats, disons les 5 à 10 principaux candidats. Et il est vrai qu'en faisant la comparaison, nous avons estimé que M. Sarkozy était celui qui pouvait être le mieux pour reprendre le flambeau, dans la mesure où il a déjà géré une situation très difficile. Il s'en est quand même bien sorti malgré tout. C'est pas parfait.
C'est qui? C'est le moins pire alors de tous?
Ah, ben, c'est le meilleur.
D'accord.
Alors pour finir, alors donc en faisant tout ça en conclusion, on a dit ben on a raisonné entre guillemets en disant ben la raison veut qu'on soutienne celui-là, même si les sondages semblent être pas tout à fait favorables sur le plan national. Nous pensons qu'il faut essayer de faire quelque chose de constructif. L'autre avantage, c'est que s'il est réélu, il n'aura plus à se soucier de se faire réélire. Alors alors que tout autre président qui serait réélu, son seul premier souci, c'est de se faire réélire dans 5 ans.
Enfin, il est dans ce cas de figure pour l'instant. Du coup, il veut être réélu parce qu'il est élu.
Oui, mais au moins, ce deuxième mandat, il aura plus ce souci derrière.
D'accord, on peut voir ça comme ça.
Voilà.
Alors oui, voilà. On a beaucoup critiqué le fait qu'il soit jamais venu sur la Polynésie, Nicolas Sarkozy. Et est-ce qu'à ton sens, ça a une importance capitale?
Non, je ne pense pas que ça soit aussi important que ça. C'est vrai qu'on aurait souhaité le voir. Moi, j'ai voté pour lui en 2007. Donc, on aurait souhaité le voir ici. Mais il y a eu un contexte local par un certain comportement de nos dirigeants locaux qui, à mon sens, pouvait justifier le fait qu'il ne soit pas venu.
Tu crois que c'est ça, appelons un chat, tu penses que c'est un problème de compatibilité d'humeur avec Oscar Temahou?
Je pense que c'est un élément important, peut-être pas le seul. C'est vrai qu'il y avait d'autres contraintes nationales et internationales qui faisaient que les priorités étaient peut-être pas de venir faire une visite en Polynésie française. Mais donc, nous avons quand même eu quelques-uns de ces émissaires, notamment M. Barouin est venu, c'était quand même pas mal. Mais je crois que c'est pas ça qui va me changer d'avis. C'est pas parce qu'il n'est pas venu nous voir qu'on va pas voter pour lui.
Heureusement d'ailleurs. Oui. C'est un petit peu grave. Au Quito, je te propose de faire une courte pause et on revient dans quelques minutes avec toi.
8h, 9h, Alban et Murphy.
Et nous sommes de retour avec Quito Brunner-Ortega. Nous parlons de sa candidature aux législatives. Quito, j'ai souvent lu dans la presse, tu mettais ça souvent en avant, le fait que toi, en tant qu'homme d'affaires, tu n'avais pas besoin de la politique pour faire de l'argent ou te placer ou des choses comme ça. Seulement, moi, la réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que souvent, les hommes politiques n'ont pas forcément besoin de l'argent pour aller au pouvoir. Ils ont tout simplement besoin du pouvoir.
Oui, mais d'un autre côté, par exemple, quand j'ai commencé à faire mes tournées il y a 3-4 ans, la première question qu'on me posait, c'est « Quito, pourquoi fais-tu de la politique? N'as-tu pas assez d'argent comme ça ?» Parce que malheureusement, dans le système que nous avons depuis quelques décennies, la personne qui fait de la politique, qui d'abord c'est pour son intérêt personnel et ses proches. Donc, la démarche de dire « moi, je ne fais pas de la politique parce que je suis intéressé par des revenus ou des avantages particuliers » est effectivement novatrice. Maintenant, la deuxième question que les gens me posaient, en disant « supposons qu'on est d'accord avec toi que tu fais pas ça pour l'argent, qu'est-ce qui nous dit que lorsque tu seras élu éventuellement, tu ne feras pas comme les autres ?» Et là, j'ai répondu que si je devais faire comme les autres, je l'aurais fait depuis 35 ou 40 ans parce que j'ai plus de 40 ans d'activité professionnelle et que ça se saurait. Et de toute ma vie professionnelle, je n'ai jamais eu besoin ou j'ai jamais magouillé, j'ai trempé dans aucune affaire, etc. etc. Donc, à ce niveau-là, c'est une question pertinente, mais mon parcours et ma situation peuvent laisser penser à mes éventuels soutiens électoraux que je dis la vérité. Et c'est un peu la base de notre démarche, dire la vérité.
Alors il y a un autre argument qu'on entend souvent aussi, c'est le fait de dire on vient pas de la politique, on vient de la société civile. C'est pas un petit peu l'effet Patrice Jamais, ça, qui a incité les gens à prendre un petit peu ce discours?
Ben moi je me suis engagé avant Patrice Jamais. J'étais le premier issu de la société civile, élu en 1986 sur une liste d'union à l'époque, qui a été constituée par des politiques qui étaient le maire de Mahina, le maire de Paea, le maire de Tevayuta et moi, issu de la société civile. Donc j'étais un peu le précurseur dans ce domaine. Il y a 3-4 ans, quand je suis relancé dans un projet politique, j'ai bien clairement exprimé que je venais de la société civile. Donc l'effet Jamais est venu il n'y a que 15 mois. Maintenant, c'est vrai que on dit société civile pour se distinguer un petit peu des professionnels de la politique.
Oui, c'est bon, on a l'impression que c'est un peu comme une maladie. On n'ose pas dire qu'on vient de la politique, c'est quand même assez incroyable.
Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, franchement, l'élu, le politique, entre guillemets, il a une très mauvaise réputation. Et dans la population, ça se ressent. Donc, en disant qu'on est société civile, d'abord c'est la vérité, et ensuite ça distingue par rapport à ces professionnels de la politique. C'est comme un peu le terme autonomiste. C'est équivalent, c'est autonomiste, ça veut dire opportuniste. Alors on me dit, t'es où toi? Je dis, moi je suis républicain. Alors qu'on est venu me demander il y a pas très longtemps, les autonomistes vont faire une alliance et patati et patata. Je dis, ça tombe bien, je suis pas concerné parce que moi je suis républicain. Donc il y a des distinctions à faire pour que les gens comprennent bien la nuance entre le professionnel de la politique qui sévit depuis 30 ou 40 ans et ceux qui sont nouvellement venus en politique issus de la société civile, mais qui sont prêts à prendre un mandat politique au sens noble du terme.
Qui est complètement désintéressé par l'aspect financier par rapport à ta candidature, ça on a bien compris. Mais il y a quand même une prise d'intérêt quand tu es un grand chef d'entreprise et que tu te lances dans la politique locale. Il y a quand même une sorte de rapport entre les deux. Comment on peut faire la différence entre son position de chef d'entreprise important sur le Fénois et les décisions politiques?
Ben, je pense que la pratique déjà dans le passé, lorsque j'ai assumé des postes de responsabilité au sein du gouvernement Lyon-Kiev, j'avais démissionné de toutes mes sociétés, je les avais même mises en vente. En 87, la Banque de Paribas était chargée de vendre tous mes actifs. Quand j'ai pas été réélu en 81, j'ai récupéré mes actifs. Aujourd'hui, effectivement, si je suis élu demain député, il n'y a pas d'incompatibilité. L'incompatibilité viendrait éventuellement si je suis dans un futur gouvernement territorial.
D'accord.
Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, à mon âge, j'ai 63 ans, je donne 10 ans de ma vie à faire de la politique au sens noble du terme. J'ai commencé il y a 4 ans, il me reste 6 ans à faire. Je ne ferai qu'un seul mandat, point. Mon objectif étant de mettre en place sur des rails, entre guillemets, pour que faire le premier pas, avec une jeune génération de dirigeants, une nouvelle génération de dirigeants politiques, de gens compétents.
À qui tu mets le pied à l'étrier, du coup?
C'est un peu l'objectif. Parce que moi, je leur ai déjà dit qu'ils seront sur leur propre, disant que moi, si j'ai l'honneur d'être élu, je ne fais qu'un seul mandat. Et donc, dans l'organisation interne que nous avons aussi décidé qu'il n'y a pas de cumul de mandats. Parce qu'on peut pas être maire d'une commune importante et occuper un deuxième mandat électif. Bien que la loi autorise le cumul de deux mandats, nous nous sommes engagés, nous, entre nous, à ne faire qu'un seul mandat. Et moi, dans mon futur, ma future vie politique, je ne ferai qu'un seul mandat, quel qu'il soit.
Alors, si jamais tu n'es pas élu député, faut y penser, hein,
oui,
aussi.
Oui, oui,
quel va être l'avenir, justement, de ton engagement politique?
Eh ben, si on n'est pas élu député, c'est pas un problème.
Oui.
Donc, on se présente, on a des candidats sérieux, compétents. Si on n'a pas l'honneur d'être élu, eh ben, on va préparer les territoriales dans 11 mois.
Et si ça marche pas au territorial?
Il reste les communales.
Et après. L'espoir fait vivre.
Non, parce qu'en fait, c'est un débat, c'est une organisation qu'on a réfléchi dès le début, c'est une structure en trois étapes. On veut être un parti politique à l'échelle territoriale.
Oui.
Il faut être crédible aux législatives, il faut être présent territorial, il faut être présent au communal.
Oui.
Donc nous avons constitué notre programme politique sur trois étapes que sont les législatives, les territoriales en 2013 et les communales en 2014. Si au bout de ça, j'ai un mandat, personnellement, je l'exécuterai et ensuite je m'arrête. J'espère que les jeunes auront aussi des mandats et eux continueront plusieurs mandats.
Ce sont des étapes logiques. Et voilà. En plus, ça vous permettra justement de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des électeurs, savoir s'ils suivent le parti ou pas.
Ben, je pense que là, les élections législatives sont quand même des élections particulières. Pour nous, elles sont très très importantes. On va pas pour se compter. Je pense qu'on va pour essayer de gagner, être élu député. On espère avoir au moins un score honorable, être présent au deuxième tour. Et si possible, effectivement, avoir un de nous trois être élu député. Moi, personnellement, si l'un des deux jeunes arrivait en tête et était élu député, je serais le plus content parce que ils auront du travail sur la planche.
C'est clair. Quito, la dernière question, j'aimerais savoir justement comment tu verrais le travail au jour le jour, si jamais tout se passe bien au niveau des élections pour ton équipe. Comment tu verrais le travail avec les autres partis politiques, sachant que les rivalités sont souvent très serrées. Comment tu vois cette relation?
Alors, au niveau des législatives, nous sommes dans le cas des législatives, en fait, lorsque les députés seront élus, ils auront à travailler avec le gouvernement territorial qui sera encore en place.
Oui.
Et travailler dans le cadre de la nouvelle Assemblée nationale. Donc il faudra qu'on se positionne où siégeons-nous vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est un débat qui est en cours. Et nous préparerons évidemment les territoriales derrière. Donc aujourd'hui, nous avons une stratégie, c'est d'aller tout seul. Nous avons commencé il y a 4 ans tout seul. Nous avons été sollicités pour faire des alliances pour les législatives. Nous avons décidé de continuer seul. Et aujourd'hui, au terme des législatives, nous continuerons seuls pour les territoriales.
D'accord. Et ben, bonne chance tout seul. Alors
voilà. Ben on va essayer. Disons, nous apportons une nouvelle alternative à la politique traditionnelle.
Donc vous vous détachez des partis déjà existants. Alors.
Voilà, et on va voir ce que les électeurs pensent. Après tout, c'est eux qui auront le dernier mot.
D'accord. Merci d'avoir répondu à ces questions, Quito.
Merci de m'avoir invité.
Ça pourrait être encore pire avec Murphy.